Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Recoin de ma vie. L'origine des satis remonte peut-être aux temps les plus reculés. Oui, là-dessus, je ne puis rien affirmer, ni infirmer du reste. Cependant, je suppose que cette famille n'appartenait pas à la noblesse, même du pape, que ses membres étaient de bons et modestes corvéables à merci, ce qui autrefois était un honneur et un plaisir, pour le bon seigneur du corvéable, bien entendu. Oui. Ce que firent les satis lors de la guerre de Cent Ans, je l'ignore. Je n'ai non plus aucun renseignement sur leur attitude et sur la part qu'ils prirent à celle de Trente Ans, une de nos plus belles guerres. Que la mémoire de mes vieux ascendants repose en paix. Oui. Passons, je reviendrai sur ce sujet. Pour ce qui est de moi, Éric Satie, je suis né à Honfleur, Calvados, arrondissement de Pont-l'Évêque, le 17 mai 1866. Me voici donc quinquagénaire, ce qui est un titre comme un autre. Honfleur est une petite ville, qu'arrosent ensemble et de connivence les flots poétiques de la Seine et ceux tumultueux de la Manche. Ses habitants, honfleurais, sont très polis et très aimables. Oui. Je restais dans cette cité jusqu'à l'âge de 12 ans, 1878, et vins me fixer à Paris. J'eus une enfance et une adolescence quelconques, sans très digne d'être relatées dans de sérieux écrits. Aussi n'en parlerai-je pas. Passons, je reviendrai sur ce sujet. Je grille d'envie de vous donner ici mon signalement. Énumération de mes particularités physiques, celles dont je puis honnêtement parler, évidemment. Cheveux et sourcils châtain foncé, yeux gris, pommelés probablement, front couvert, nez long, bouche moyenne, menton large, visage ovale, taille 1m67. Ce document signalétique date de 1887, époque où je fis mon volontariat au 33e régiment d'infanterie à Arras, Pas-de-Calais. Il ne pourrait me servir aujourd'hui. Je regrette de ne pas vous montrer mes empreintes digitales, de doigts. Oui, je ne les ai pas sur moi et ces reproductions spéciales ne sont pas belles à voir. Elles ressemblent à Vuillermoz et à la Loire réunie. Passons. Je reviendrai sur ce sujet. Après une assez courte adolescence, je devins un jeune homme ordinairement potable, pas plus. C'est à ce moment de ma vie que je commençais à penser et à écrire musicalement. Oui, fâcheuse idée, très fâcheuse idée. En effet, car je ne tardais pas à faire usage d'une originalité, originale, déplaisante, hors de propos, anti-française, contre nature, etc. Alors la vie fut pour moi tellement intenable, car je résolus de me retirer dans mes terres et de passer mes jours dans une tour d'ivoire ou d'un autre métal, métallique. C'est ainsi que je pris goût pour la misanthropie, que je cultivais l'hypocondrie et que je fus le plus mélancolique de plomb des humains. Je faisais peine à voir, même avec un lorgnon en or contrôlé, oui. Et tout cela m'est advenu par la faute de la musique. Cet art m'a fait plus de mal que de bien. Il m'a brouillé avec nombre de gens de qualité, fort honorables, plus que distingués, très comme il faut. Passons. Je reviendrai sur ce sujet. Personnellement, je ne suis ni bon ni mauvais, j'oscille, puis-je dire. Aussi n'ai-je jamais fait réellement de mal à quiconque, ni de bien au surplus. Toutefois, j'ai beaucoup d'ennemis, de fidèles ennemis, naturellement. Pourquoi ? Cela tient à ce que, pour la plupart, ils ne me connaissent pas, ou ne me connaissent que de seconde main, par ouï-dire, des mensonges plus que menteurs, en somme. L'homme ne peut être parfait. Je ne leur en veux nullement. Ils sont les premières victimes de leur inconscience et de leur manque de perspicacité, pauvres gens. Ainsi les plains-je. Passons, je reviendrai sur ce sujet. Éric Satie.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
Éric Satie était l'ami de Debussy, Son père était normand et sa mère anglo-écossaise. Il avait beaucoup d'esprit, un humour qui allait du mot le plus cru à l'ironie la plus fine, à la cocasserie la plus folle aussi. Il disait « Je m'appelle Eric Satie, comme tout le monde ». Il portait un chapeau melon, un faux col, des costumes en velours gris et un parapluie. Les parapluies, il en possédait 14, tous noirs. Et par temps de pluie, il les planquait sous son veston pour les protéger. Il en avait même fait l'inventaire. Un parapluie de secours, de couleur noire. Un just in case, de couleur noire. Un malheureux, de couleur noire. Un plus solide, de couleur noire. Un qui s'envole, de couleur noire. Un jetable, de couleur noire. Un très digne, de couleur noire. Un imperméable, de couleur noire. Un que l'on peut casser, de couleur noire. Un qui nous attend, de couleur noire. Un très intimidant, de couleur noire. Un alambiqué, de couleur noire. Un très sportif, qui défend bien, de couleur noire. Un dernier, gentil, juste pour les dimanches, de couleur noire. Nous écoutions la Gnossienne, numéro 1. Mémoire d'un amnésique, la journée du musicien. L'artiste doit régler sa vie. Voici l'horaire précis de mes actes journaliers. Mon lever à 7h18. Inspiré, de 10h23 à 11h47, je déjeune à 12h11 et quitte la table à 12h14. Salutaire promenade à cheval dans le fond de mon parc, de 13h19 à 14h53. Autre inspiration, de 15h12 à 16h07. Occupations diverses. Escrime, réflexion, immobilité, visite, contemplation, dextérité, natation, etc. De 16h21 à 18h47. Le dîner est servi à 19h16 et terminé à 19h20. Viennent des lectures symphoniques à haute voix de 20h09 à 21h59. Mon coucher a lieu régulièrement à 22h37, hebdomadairement réveil en sursaut à 3h19 le mardi. Je ne mange que des aliments blancs, des œufs, du sucre, des os râpés, de la graisse d'animaux morts, du veau, du sel, des noix de coco, du poulet cuit dans de l'eau blanche, des moisissures de fruits, du riz, des navets, du boudin camfré, des pâtes, du fromage blanc, de la salade de coton et de certains poissons, sans la peau. Je fais bouillir mon vin que je bois froid avec du jus de fuchsia. J'ai bon appétit, mais je ne parle jamais en mangeant de peur de m'étrangler. Je respire avec soin, peu à la fois. Je danse très rarement. En marchant, je me tiens par les côtes et regarde fixement derrière moi. D'aspect très sérieux, si je ris, c'est sans le faire exprès. Je m'en excuse toujours et avec affabilité. Je ne dors que d'un œil. Mon sommeil est très dur. Mon lit est rond, percé d'un trou pour le passage de la tête. Toutes les heures, un domestique prend ma température et m'en donne une autre. Depuis longtemps, je suis abonnée à un journal de mode. Je porte un bonnet blanc, des bas blancs et un gilet blanc. Mon médecin m'a toujours dit de fumer. Il ajoute à ses conseils « Fumez, mon ami. Sans cela, un autre fumera à votre place. »
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Les parapluies d'Éric Satie, de Stéphanie Calfon, publié aux éditions Joël Losfeld. Extrait. Ce matin, il fait gris laiteux, comme d'habitude, légèrement froid, mais sans persistance. Le petit parc est bruyant, à peine, et le ciel se demande comment se comporter. Les feuilles des chênes font un bruit de grelots. Voici Éric Satie qui marche là-bas. Il vient du fond du siècle, un matin comme celui-là. On le reconnaît à sa démarche cliquetante, son parapluie à contre-temps. Il regarde le mois de mai sans aucune objection. Difficile de se représenter le petit homme hors norme. Pour être honnête, il faudrait faire de lui un portrait sans rangement, à son image, et accepter ses règles du jeu, qui ne régleront rien d'ailleurs, comme vous le verrez. Un portrait qui lui ressemble serait donc volontiers dérangé, comme sa petite chambre d'effroi qui se trouve à Arcueil. Voilà ce qu'on peut en dire. À 35 ans, en ce mois de mai 1901, le 17 pour être précis, Éric Satie est dans la dèche. Il rafistole sa pantomime nommée Jack in the Box, qui n'aura jamais lieu. Il a laissé derrière lui les aventures de sa jeunesse au Chat Noir pour s'exiler dans ce taudis mortuaire en banlieue. Il déteste les vacances, il crève la faim, il fait mine d'être bien installé dans cette chambre sans chauffage, il fait mine d'avoir choisi ce retrait. Mais il passe son temps à regarder par la fenêtre. Comment vivent les autres? Les autres, oui, et lui, il fait le point. Il écrit souvent à son frère, Conrad. Il a perdu l'envie de plaisanter, il a peur le soir quand il rentre à pied de Paris. La marche, c'est à cause de la misère. Elle n'empêche pas d'errer dans sa tête, de tourner en rond. Il s'hallucine. Il est seul. Il est seul. Il est seul. Il en a terminé de l'amour, en a terminé de sa crise mystique. Le succès de Debussy, quelle obsession! À présent, il faut musicalement passer à autre chose. Satie cherche comment? Sûr qu'après avoir excommunié tout ce que Paris compte de critiques et de directeurs d'opéra, il a perdu la carte. On appelle ça un suicide professionnel. Il est tombé dans le piège de son personnage et bien malgré lui, il touche le fond. Alors, Éric Satie demeure ici, à Arcueil, qui rime avec cercueil, dans un silence ressassé, inquiétant, et peuplé de voix d'où il va bien falloir surgir. Mais ce qui surgit pour l'instant, c'est seulement le passé, les regrets, les ratages, les déceptions et la mort. À 35 ans, Satie est en crise. Il ne sait pas encore qu'il est Eric Satie. Il n'est qu'un être humilié, rejeté, moqué, sans le sou. Alors il boit. Son frère a quitté Paris, son père va bientôt crever. Des copains aussi en ont fini avec la vie. Montmartre est loin, Montparnasse est loin. Seule la misère lui tient compagnie. Alors il boit. Il n'a pas assez d'argent pour sortir manger. Alors il boit. Il en veut au ciel et à l'aurore. Il en veut à toutes les heures séculaires qui ne se diluent pas dans l'ennui ni l'alcool et dont il ne sait pas encore qu'il en fera quelque chose. Eric Satie meurt à 59 ans, d'une cirrhose du foie, à Arcueil. Un ami, alors qu'il y entre pour la première fois, décrit la chambre du musicien. C'était tragique, absolument tragique. Il s'agissait d'une maison en fer à cheval, une espèce de coin. Au deuxième étage, il y avait un WC tout à fait public et tout à fait indiscret, et il y avait cette porte qui était la sienne. Nous avons forcé cette porte et nous sommes entrés dans une chambre misérable. Il y avait un lit de fer sur lequel il y avait des couvertures de la SNCF, pas de drap, et partout une poussière absolument extraordinaire. Nous avons eu l'impression d'étouffer. Et nous avons essayé d'ouvrir la fenêtre, mais nous n'avons pas pu y arriver parce qu'il y avait des années de poussière qui la bloquaient. Nous avons regardé un petit peu partout, et nous avons été saisis par la pauvreté, la misère de cet antre. C'était tellement énorme que ce n'était plus de la saleté. On avait l'impression d'être dans une immense toile d'araignée. Voici l'effroyable inventaire de la chambre interdite où demeura Eric Satie, tel qu'il fut retranscrit par Darius Milhaud. Deux pianos, l'un tout cassé, l'autre rempli de correspondances non ouvertes et de partitions, deux semblants de tables montées sur tréteaux, trois chaises méconnaissables de poussière, un fauteuil antique, un lit disparaissant sous les papiers, dans un coin, un coffret contenant une multitude de faux cols, presque neufs, quantité de vieilles chaussettes, chaussures, chapeaux, effets, journaux, des piles de vêtements tout neufs et non dépliés provenant du bon marché, des piles de papiers musicaux et partitions, 14 parapluies identiques. Voilà pour le quotidien, le concret, ce par quoi on suffoque dans cette misère qui, semble-t-il, a pris le dessus. Ailleurs, Satie a consigné soigneusement tout ce qu'il ne pouvait s'offrir, mais qui lui appartenait. Au total, 40 000 petits papiers rangés dans des étuis à cigares, avec plaques en celluloïde, dont l'une glisse au-dessus de l'autre comme une éphéméride. Ici, écrit en tout petit, on trouve des choses précises et irréelles, calligraphiées magistralement, tout un tas de cadeaux éplés ou dessinés, faisant des mots une chose tangible, à soi, tout un monde souterrain où puiser du courage, un monde interdit et invisible. Une île, tout en fonte, plus belle que le mont Saint-Michel, un riche trousseau, un somptueux mobilier, un carnet de chèques inépuisable, un vieux domestique répondant aux ordres, l'art de vous rendre invisible. Satie fut méconnu, insaisissable, incompris, peuplé d'une vie secrète dans laquelle peut-être, possible, oui, possible, il aura mis le meilleur de lui-même. Or, la société a besoin de cohérence. Eric Satie était un compagnon d'errance, un rebut. C'était aussi, et surtout, un compositeur avant-gardiste virtuose, dont les musiques sont aujourd'hui jouées dans le monde entier, comme les célèbres gymnopédies. Et Satie fait partie des précurseurs de plusieurs mouvements, dont le surréalisme, le minimalisme, la musique répétitive, et le théâtre de l'absurde. Il a en quelque sorte anticipé tout ça, tous ces mouvements. Nous écoutons la gymnopédie numéro 1. Chers auditeurs, merci. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les émissions d'Encore Heureux en podcast sur le site de Radio B. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année dans la joie, la musique et la sobriété énergétique. À très bientôt sur Radio B.